Nick Dune, un jour après. Je n'ai pas écouté les conseils de Go sur l'alcool. J'ai vidé la moitié de la bouteille, assis tout seul sur le canapé, et ma 18e montée d'adrénaline s'est déclenchée juste au moment où je pensais que j'allais finir par m'endormir. Mes yeux se fermaient, je remuais mon oreiller, mes paupières étaient closes, et là, j'ai vu ma femme, du sang coagulé dans sa chevelure blonde, en larmes, aveuglée par la douleur, qui rampait sur le sol de notre cuisine. Elle m'appelait. « Nick ! Nick ! Nick !» J'ai pris plusieurs petites gorgées de whisky en me préparant mentalement à dormir. Un rituel voué à l'échec. Le sommeil, c'est comme un chat. Il ne vient vous voir que si vous l'ignorez. J'ai bu davantage en me répétant mon mantra. « Arrête de réfléchir. » Une gorgée. « Fais le vide. » Une gorgée. Maintenant, sérieux, fais le vide. Allez, tout de suite. Une gorgée. T'auras besoin de toutes tes capacités mentales tout à l'heure. Faut que tu dormes. Une gorgée. Je ne suis parvenu qu'à faire un somme agité vers l'aube et me suis réveillé une heure plus tard avec la gueule de bois. Pas une gueule de bois paralysante, mais une gueule de bois respectable quand même. J'étais fragile et affaibli. Pâteux. Peut-être encore un peu saoul. Je me suis dirigé vers la voiture de Go d'un pas hésitant. Le mouvement me semblait peu naturel, comme si mes jambes étaient montées à l'envers. J'avais la jouissance temporaire de sa voiture. La police avait pris ma Jetta pour inspection. Trois voitures de patrouille étaient garées dans ma rue et nos très rares voisins rôdaient autour de la maison. Pas de Karl, mais il y avait Jeanne Téverère, la vieille chrétienne, et Mike, le père des triplés Five âgés de 3 ans, Taylor, Topher et Talula. « Je les déteste tous, rien que le nom », disait Amy, arbitre impitoyable de toutes les modes. Lorsque j'ai souligné que Amy était autrefois un prénom à la mode, ma femme a répondu « Nick, tu connais l'histoire de mon nom ». Je ne voyais pas du tout à quoi elle faisait allusion. Jeanne m'a fait un signe de tête de loin sans croiser mon regard, mais Mike a traversé la rue pour venir me trouver lorsque je suis descendu de voiture. Oh, « Je suis vraiment désolé, mon vieux. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-moi. Quoi que ce soit, j'ai tondu la pelouse ce matin, alors au moins t'auras pas à t'en soucier. » Mike et moi, nous nous chargions à tour de rôle de tondre le gazon des propriétés abandonnées ou hypothéquées du lotissement. Les fortes pluies du printemps avaient transformé les jardins en jungle, ce qui avait encouragé la prolifération des ratons laveurs. Nous avions des ratons laveurs partout. Ils rongeaient nos ordures tard dans la nuit, se faufilaient dans nos sous-sols, se prélassaient sous nos porches comme de gros chats paresseux. Couper l'herbe ne semblait pas les faire fuir, mais au moins on les voyait venir maintenant. « Merci, mec, merci », j'ai dit. « Tu sais, ma femme, elle est dans tous ses états depuis qu'elle a appris la nouvelle. Complètement hystérique. « Désolé d'apprendre ça. Je dois... » J'ai désigné notre porte. « Elle est prostrée, elle ne fait que pleurer en regardant des photos d'Amy. » Un millier de photos étaient apparues sur le net du jour au lendemain, rien que pour satisfaire les besoins pathétiques de femmes comme celle de Mike. Je n'avais aucune sympathie pour les pleureuses professionnelles. « Dis, il faut que je te demande... » a commencé Mike. Je lui ai tapoté le bras et j'ai de nouveau désigné la porte comme si j'étais pressé. Je me suis écarté avant qu'il ait le temps de poser sa question. Et j'ai frappé à la porte de ma propre maison. L'agent Velasquez m'a escorté en haut, à ma propre chambre, à mon propre placard, derrière le paquet cadeau argenté parfaitement cubique, et m'a laissé farfouiller dans mes affaires. Cela me rendait nerveux de choisir mes vêtements devant cette jeune femme avec sa longue tresse brune, cette femme qui devait me juger, se faire une opinion. J'ai fini par prendre ce qui me tombait sous la main. Au final, j'avais l'air professionnel mais décontracté, pantalon en toile et manches courtes, comme si je me rendais à une convention. Ça ferait un sujet d'article intéressant, je me suis dit. Comment choisir la tenue appropriée lorsqu'un être cher s'évanouit dans la nature? L'écrivain en moi, avide de matière et de perspective, impossible à faire taire. J'ai fourré le tout dans un sac et je me suis retourné vers le paquet cadeau posé par terre. « Je peux regarder ce qu'il y a dedans ?» ai-je demandé. Elle a hésité, puis joué la sécurité. Non, je suis désolé, monsieur. Pas maintenant, ça vaut mieux. J'ai vu que le bord de l'emballage avait été fendu proprement. Quelqu'un l'a ouvert ? Elle a hoché la tête. Un flic quelconque avait lu le premier indice de ma chasse au trésor. J'ai contourné Velasquez pour m'approcher du paquet. S'il a déjà été ouvert, je ne vois pas. Elle m'a barré la route. Monsieur, je ne peux pas vous laisser faire ça. C'est ridicule, c'est un cadeau de ma femme pour moi. Je l'ai contourné de nouveau, je me suis penché et j'avais une main sur le coin du paquet lorsqu'elle a plaqué un bras sur mon torse par derrière. J'ai eu un brusque sursaut de fureur à l'idée que cette femme se permette de me dire ce que j'avais à faire dans ma propre maison. J'ai beau faire tout ce que je peux pour être le fils de ma mère, la voix de mon père s'invite parfois dans ma tête pour y déposer des pensées atroces, des mots ignobles. « Monsieur, ceci est une scène de crime, vous... pauvre salope !» Et soudain, son équipier, Riordan, est rentré dans la pièce et a fondu sur moi. J'ai essayé de me dégager. « Ok, ok, putain !» Et ils m'ont fait descendre manu militari. Près de la porte d'entrée, une femme examinait le plancher, à quatre pattes, en quête, j'imagine, de giclures de sang. Elle a levé les yeux sur moi, impassible, puis s'est remise à l'ouvrage. Je me suis obligé à décompresser en rentrant chez Go pour me changer. Ce n'était que la première d'une longue série de choses irritantes et stupides que la police allait faire au cours de l'enquête. J'aime les règles qui ont un sens, pas les règles illogiques. Aussi devais-je me calmer. « Ne te mets pas les flics à dos dans cette affaire, » me suis-je dit. « Répète si nécessaire. Ne te mets pas les flics à dos dans cette affaire. » Je suis tombé sur Bonnie en entrant dans le commissariat. Elle m'a dit « Vos beaux-parents sont là », d'une voix encourageante, comme si elle m'offrait un muffin tout chaud. Mary Beth et Rand Elliott se tenaient enlacés. Au beau milieu du commissariat, on aurait dit qu'ils posaient pour une photo de promo. C'est comme ça que je les voyais toujours, en train de se caresser la main, de se blottir dans les bras l'un de l'autre, joue contre joue. À chaque fois que j'étais en visite chez eux, je me mettais à m'éclaircir la gorge obsessionnellement. « Je vais entrer dans la pièce !» parce que les Elliott pouvaient être en train de se plotter dans n'importe quel recoin. Ils s'embrassaient à pleine bouche à chaque fois qu'ils se séparaient, et Rand caressait le derrière de sa femme dès qu'il passait devant elle. Ça m'était complètement étranger. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, et je pense que, peut-être, quand j'étais tout petit, j'ai surpris un baiser chaste entre eux, parce que c'était impossible de faire autrement. À Noël, aux anniversaires, les lèvres sèches. À la meilleure période de leur mariage, leurs échanges étaient purement utilitaires. « On est encore à court de lait. J'en achèterai aujourd'hui. J'ai besoin que cette chemise soit repassée correctement. Je le ferai aujourd'hui. C'est si compliqué que ça d'acheter du lait ?» Silence. « Tu as oublié d'appeler le plombier ?» Soupir. « Nom de Dieu, mets ton manteau et va acheter du lait, maintenant !» Ces messages et ordres vous sont transmis par mon père, le directeur d'une compagnie de téléphone de rang intermédiaire qui traitait ma mère au mieux comme une employée incompétente. Au pire, il ne l'a jamais battue, mais sa rage pure, muette, emplissait la maison pendant des jours, des semaines de suite, rendant l'air humide difficile à respirer, tandis que mon père rôdait, le menton en avant, ce qui lui donnait l'aspect d'un boxeur blessé, vengeur, grinçant si fort des dents qu'on l'entendait à l'autre bout de la pièce. Il jetait des objets près d'elle, mais pas exactement sur elle. Je suis certain qu'il se disait « Je ne l'ai jamais frappé ». J'en suis certain parce que, à cause de ce détail technique, il ne s'est jamais considéré comme un tyran domestique. Mais il a transformé notre vie de famille en un trajet interminable, avec un plan fautif et un conducteur crispé par la colère. Des vacances qui n'auraient jamais eu la moindre chance d'être une détente. Ne me forcez pas à faire demi-tour. S'il te plaît, sans déconner, fais demi-tour. Je ne pense pas que le problème de mon père avait trait spécifiquement à ma mère. Il n'aimait pas les femmes, c'est tout. Il pensait qu'elles étaient stupides, inconséquentes, agaçantes. Cette stupide garce ! C'était son expression préférée pour qualifier toutes les femmes qui lui tapaient sur le système. Une conductrice sur la route, une serveuse, nos instits, qu'il n'avait jamais rencontré en personne, vu comme les réunions parents-prof puaient l'univers femelle. Je me rappelle encore le jour où Géraldine Ferraro a été nommée candidate à la vice-présidence en 1984. On regardait les infos avant le dîner. Ma mère, ma tendre mère toute minuscule, a posé la main sur la nuque de Gau et elle a dit « Eh bien, je trouve ça formidable ». Mon père a éteint la télé et commenté « C'est une blague. Tu sais très bien que c'est une foutue blague. C'est comme de voir un singe faire du vélo. » Il a encore fallu 5 ans avant que ma mère décide enfin qu'elle en avait assez. Un soir, quand je suis rentré de l'école, mon père était parti. Il était là le matin, parti l'après-midi. Ma mère nous a fait asseoir à la table de la salle à manger et nous a annoncé « Votre père et moi, nous avons décidé que ce serait mieux pour tout le monde si nous vivions séparés. » Go a fondu en larmes et lancé « Parfait, je vous déteste tous les deux !» Puis, au lieu de courir dans sa chambre comme l'exigeait le scénario, elle a pris ma mère dans ses bras. Ainsi, mon père est parti et ma mère, mince et affligée, est devenue grosse et contente. Raisonnablement grosse et extrêmement contente, comme si ça avait été sa nature depuis toujours. Un ballon dégonflé qui aspirait de nouveau de l'air. En l'espace d'un an, elle s'était métamorphosée en la dame joyeuse, chaleureuse et occupée qu'elle allait demeurer jusqu'à sa mort. Et sa sœur disait des choses telles que « Dieu merci, cette bonne vieille Maureen est de retour !» comme si la femme qui nous avait élevés était une imposture. Quant à mon père, pendant des années, je lui ai parlé au téléphone environ une fois par mois. Nos conversations étaient polies et informatives, l'énumération des choses qui s'étaient passées. La seule question qu'a jamais posée mon père au sujet d'Amy, c'est « Comment va Amy ?» Une question qui n'appelait pas de réponse au-delà du « Elle va bien » qui était d'usage. Il est resté obstinément distant, même lorsqu'il a commencé à sombrer dans la démence après la soixantaine. « Si t'es toujours en avance, t'es jamais en retard !» la devise de mon père, et il l'a appliquée, y compris dans le déclenchement d'Alzheimer. Un lent déclin qui s'est achevé par une chute brutale, qui nous a forcés à installer notre père, misogyne et indépendant comme il l'était, dans une maison de retraite gigantesque qui puait le bouillon de poule et la pisse, où il serait entouré de femmes pour l'aider dans toutes ses tâches quotidiennes. L'ironie tout de même. Mon père était limité. C'est ce que nous disait tout le temps ma mère, avec son bon cœur. Il était limité, mais il ne pensait pas à mal. C'était gentil de sa part de dire ça. Mais il en a fait du mal. Ça m'étonnerait que ma sœur se marie un jour. Si elle est triste, bouleversée ou en colère, elle a besoin d'être seule. Elle craint qu'un homme ne dénigre ses larmes de femme. Je ne vaux guère mieux. Ce qu'il y a de bon en moi, je le tiens de ma mère. Je peux plaisanter, je peux rire, je peux taquiner, je peux fêter, encourager et louer. Je peux opérer au grand jour fondamentalement, mais je perds mes moyens devant les femmes en colère ou en larmes. Je sens alors la rage de mon père monter en moi de la plus ignoble manière. Amy pourrait vous en parler. Elle le ferait, c'est certain, si elle était là.